Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, écoutez-moi bien. Cette fois-ci, je m'adresse aux professionnels du sport et du mouvement. Donc essentiellement les coachs sportifs, les préparateurs physiques, les kinéostéos. Et alors, il y a un programme de formation qui cartonne en ce moment et dont tout le monde parle. Et quand j'ai discuté avec les fondateurs et que j'ai regardé ce qu'ils proposaient, eh bien, j'ai de suite compris pourquoi. Car on est sur du très gros niveau. Alors, il s'agit de Labo RNP. C'est mon sponsor d'aujourd'hui et je suis super content de vous en parler car actuellement, c'est la référence mondiale dans la prise en charge individualisée de l'entraînement. Et en plus, c'est français. Alors, Labo RNP, c'est une formation complète pour les professionnels qui a été réalisée par 3 experts de malades et qui combine neurologie fonctionnelle, posturologie, réflexes archaïques à destination des professionnels du sport et du mouvement qui veulent devenir numéro 1 dans le suivi de leurs athlètes et de leurs patients. Et en fait, leur formation, elle va bien au-delà de l'entraînement classique parce que vous allez découvrir en profondeur le fonctionnement du système nerveux. Vous allez pouvoir utiliser toutes ces nouvelles compétences pour améliorer vos suivis, améliorer vos consultations, vos programmes aussi, pour créer une vraie transformation dans le mouvement et dans les performances des gens que vous suivez. Vous aurez accès à 4 modules en ligne avec plus de 40 heures de contenu en vidéo. Vous avez même un module en présentiel et plein de bonus. Ils sont déjà des centaines de professionnels à s'être formés chez eux et ils sont tous unanimes. La formation est du très haut niveau et certains parlent même d'une révolution dans l'entraînement. Alors si aujourd'hui vous êtes coach sportif, préparateur physique ou même kinéostéo, ben je vous conseille de ne pas passer à côté. Et cette semaine, Labo RNP ouvre les portes d'une nouvelle cohorte de formation. Il y a seulement 30 places qui sont disponibles et les portes se referment le 6 mai au soir. Alors mon conseil, profitez-en maintenant, formez-vous tranquillement pendant cette période d'été qui arrive là, où c'est généralement un petit peu plus calme au boulot, et comme ça dès la rentrée, vous serez au top, vous aurez plein de nouvelles connaissances et plein de compétences à implémenter directement dans vos coachings et vos consultations. Si vous voulez faire partie de la prochaine cohorte, vous allez sur biomecaniquepodcast.com/RNP, RNP comme les 3 lettres, vous aurez accès à tout le programme, tout le descriptif et vous pourrez vous inscrire. Et évidemment, vous me connaissez, je suis un requin et j'ai encore réussi à vous négocier une réduction. Vous ajoutez le code biomécanique sur la page de commande et vous aurez droit à 100€ de remise sur la formation. Et pour le coup, c'est vraiment une exclue biomécanique parce qu'ils n'ont jamais fait ça auparavant. Donc rendez-vous sur biomecaniquepodcast.com/RNP. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, c'est encore plus simple. Le lien est cliquable tout en haut dans la description de l'émission. Vous pourrez ensuite ajouter à la page de commande le code biomécanique pour avoir votre réduction. Et puis, vous pourrez directement démarrer le programme. Par contre, dépêchez-vous, je répète, les portes se referment le 6 mai pour plusieurs mois. Donc, foncez. Et maintenant, place à l'épisode. Alors j'en profite pour te refaire publiquement un petit message pour te dire merci de venir sur le podcast. C'est un plaisir de te recevoir, Jean-Charles.
Merci de l'invitation, c'est un plaisir pour moi.
Non, mais écoute, non, c'est un plaisir. Je t'ai découvert, évidemment, j'ai découvert comme beaucoup là sur les vidéos avec Greg MMA, Karaté Bushido, avec ta fameuse punchline sur les échauffements. Bon, je poserai une question par rapport à ça parce que je pense que ça intrigue tout le monde, cette histoire d'échauffement. Et puis j'avais vu ton documentaire, c'était dans la peau, attends, le titre, je me souviens plus. Peau de boxeur.
Peau de boxeur. Oui.
Ouais. Excellent. Vraiment intéressant. Je vais te laisser te présenter, même si je pense que tout le monde te connaît, mais c'est un peu la tradition sur le podcast.
Jean-Charles Skarbowski, j'ai été champion de Muay Thai, maintenant je suis entraîneur. Et j'ai 2 salles sur Paris. Et mon but, c'est d'ouvrir plusieurs salles Skarbowski. J'ai un petit peu partout dans le monde. Là, il y en a une en Chine, une en Thaïlande, une au Canada, une en Amérique. Bon, et puis après, l'aventure continue. Hein, j'ai d'autres projets. Et j'ai été organisateur aussi de galas. J'ai organisé un des galas les plus célèbres en Europe. C'était le Best of Siam. Donc j'en ai organisé 14. J'ai organisé au Raja Damnoen, au Lumpini. Je veux dire que j'étais le premier non-thaï organisé dans ces grands stadiums. Et maintenant, mon but, c'est d'enseigner. Et donc, je suis tous les jours à la salle. J'en ai une dans le 18e, une dans le 20e. Donc, tout le monde est bienvenu, tous les niveaux. On a beaucoup de loisirs, aussi quelques compétiteurs. peut-être que nous, on souhaite, hein, qui sont des jeunes qui sont motivés, qui vont faire entendre parler de bientôt.
Bon, très bien. Tu peux m'expliquer directement ce que c'est cette histoire avec l'échauffement? Pourquoi t'aimes pas t'échauffer?
Non, c'est les mouvements qu'ils faisaient à ce moment-là.
Oui, sur Greg, oui. Mais je t'ai revu dans d'autres vidéos derrière.
Oui, je sais pas si...
T'auto-parodies un peu sur les échauffements. Ouais. Tu fais deux, trois mouvements.
Je me rappelle des mouvements qu'ils faisaient. Comme ça, pendant une demi-heure, sans s'arrêter, je trouvais que c'était un petit peu trop. Quoi.
Okay.
Et en plus, ça me mettait un petit peu le stress. Parce que je vois bien qu'il est plus grand et plus costaud. Et on se connaît pas. Il veut venir faire un petit combat avec moi à la salle. Moi, je prends un risque. Hein, tout peut arriver. Quoi. Et je sais que ça ne servait à rien de stresser comme ça avant notre petit combat d'entraînement, quoi, qui a duré que 3 minutes. Et puis, on ne s'est pas fait mal du tout. C'est dans ce sens-là où je veux dire qu'il n'y avait pas besoin de stresser. Quoi. Parce que ces mouvements, il les faisait par stress, quoi. Et effectivement, lui, il se méfie de moi, il veut pas être ridicule dans sa vidéo, donc il se chauffe et mentalement, ça le prépare. Et moi, je vois qu'il se prépare de plus en plus mentalement comme si c'était un combat, alors que c'est censé être un petit entraînement. Moi, je suis pas là pour prendre des risques avec quelqu'un qui fait plus de 100 kilos, qui peut me blesser, hein. C'est normal, je sais pas vraiment à qui j'ai affaire. Je me suis rendu compte qu'au final, il était très bon, très fair play, très gentil. Mais au début, j'étais un petit peu méfiant. Et le fait de devoir faire plein de mouvements comme ça, non-stop, pendant une petite demi-heure, bah, ça me stressait. Je lui dis, bah, arrête, ça sert à rien de faire ça. Bon.
D'accord. Donc,
combat, c'est un petit entraînement ouais. Léger. On y va tranquille.
Ouais, petit sparring. Ok, donc ça veut dire que toi aussi, ça t'arrive de...
Bah, Après, il y a certains mouvements, comme se tourner les poignets, que ça, c'est le moment que j'ai jamais fait. Quoi. Les mouvements qu'on fait à l'école primaire en classe de gym, je ne les ai jamais refait. Quoi. Après, évidemment, je fais des étirements, je fais de l'assouplissement. Et puis pour moi, l'échauffement, c'est plus un footing ou de la corde, parce que c'est difficile à faire. Après faire une tonne de mouvements, perdre beaucoup d'énergie avant l'entraînement avec des mouvements qui ne sont pas directement des techniques de boxe, ça t'enlève de l'énergie après pour les techniques de boxe à proprement dites.
Ok.
Donc c'est pour ça que moi je préfère faire un échauffement avec des déplacements et des mouvements de mouet ou un footing ou de la corde à sauter, en fait quelque chose d'assez dur. Quelque chose que tout le monde ne peut pas faire, parce que les mouvements de poignet, les mouvements de coude, comme ça, tout le monde peut le faire. Et puis, si ça dure un quart d'heure dans un entraînement d'une heure et demie, bon, on a perdu un quart d'heure.
Ok, d'accord, bon, ben, tout ça explique cela. Et ça veut dire que tu es stressé quand tu es face à Greg ou face à d'autres, pour un sparring, quelque chose qui est pas sérieux, tu ressens encore du stress?
Je le connaissais en tant que youtubeur. Je sais que c'est quelqu'un qui aime faire le show. Donc je me suis dit peut-être qu'il va essayer de me mettre un coup un peu plus fort. Et je le connaissais pas personnellement, que je prends un risque. Un inconnu me dit viens, ça va être filmé, je vais faire un petit combat avec toi dans ta salle. Alors, la personne je la connais pas. Quand je la vois arriver, je vois qu'on a vraiment deux gabarits de différence. Je me dis voilà, il peut me faire mal. On sait jamais.
Ok, j'ai lu ou j'ai entendu, que la première fois que tu étais rentré dans un club de Muay Thai, t'avais pas trop kiffé. Est-ce que c'est vrai cette histoire?
Non, pas du tout, non, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça trop dur, mais j'ai bien aimé.
Ok, d'accord. Bah, qu'est-ce que t'as trouvé dur? Parce qu'après, je vais te parler un peu très rapidement de mon expérience pour que tu m'expliques un peu si c'est comme ça que c'est censé se passer.
Contrairement aux autres arts martiaux que j'avais déjà pratiqués, karaté, aikido, kung fu, judo, l'intensité de l'entraînement, l'énergie que le professeur nous demandait était bien supérieure à tous les autres cours que j'avais pu faire où on était souvent assis à écouter le professeur, à répéter des mouvements dans le vide, pas très fort, pas trop vite non plus. Alors que là, c'est fort, vite, non-stop, les pompes, les abdos, on s'arrête pas. Physiquement, j'ai trouvé ça très dur, j'ai envie de vomir après ce premier cours. Mais là, tu sens que ce sport est vraiment dur, bah, je pense que c'est bon sport, parce que le sport de combat, c'est le meilleur, c'est le plus dur possible. Pour te rendre dur, il faut faire quelque chose de dur.
Est-ce que tu as fait du sparring sur ta première séance? Est-ce que tu as pris des coups un peu, hormis la difficulté physique? Est-ce que tu as pris des coups dans la gueule?
Je me souviens plus très bien, mais je sais que Maître Zetoum m'avait montré un balayage un peu puissant. et sans contrôler quoi. Donc je suis vraiment tombé et c'était pas la première fois, surtout les arts martiaux que j'avais déjà pratiqués, où il y avait un véritable échange physique avec l'entraîneur, quoi. Parce que même si c'est certes un coup, mais c'est quand même un échange physique que je n'avais pas eu dans les autres arts martiaux, quoi. Donc quand tu veux faire un sport de combat et que tu sens que c'est vraiment physique et que l'entraîneur il se donne dedans, ça motive, quoi.
Ok. Parce que j'avais eu l'occasion, j'en avais déjà parlé dans ce podcast, que j'avais déjà fait des cours de Muay Thai lorsque j'étais en France. Et un truc qui m'a choqué, je sais pas si j'étais tombé sur un club particulier, où finalement, dès le premier cours, alors j'étais arrivé en milieu d'année aussi, tu vois, j'étais de passage en France avant de repartir, et il y avait eu beaucoup de sparring, et en fait, je me suis directement, c'était des, j'en avais jamais fait, et c'est vrai qu'il y avait eu deux trois mecs qui retenaient pas vraiment ses coups, et ben, j'avais trouvé, enfin, si tu veux, comme j'avais pas de référence, j'avais trouvé ça normal. Enfin, je m'étais dit, tiens, ça doit être comme ça à chaque fois. Tu commences le Muay Thai, même quand t'as pas de technique, que tu sais pas trop contrer, tu sais pas défendre, tu sais pas faire quoi que ce soit. Tu prends des coups dans la gueule, j'imagine que c'est comme ça que t'apprends et que t'évolues. Et après, pour en avoir discuté avec d'autres gens qui avaient fait du Muay Thai, qui étaient un petit peu plus expérimentés, m'avaient quand même dit, là, c'était peut-être un peu violent. Normalement, t'es censé quand même apprendre un petit peu à te protéger, à te défendre, à rendre les coups, à avoir déjà rien que quelques patterns avant de commencer quelques sparring. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il faut passer nécessairement par un... Est-ce qu'il faut s'en prendre dans la gueule? Est-ce que c'est un passage obligatoire ou pas?
Il y a bien un moment où tu vas prendre un coup, hein.
Ok, mais
Quand tu
dès la
fais un sport
première.
comme ça où on t'apprend à taper, il y a bien, comme je te dis, il y a bien un moment donné où tu vas prendre un coup. Si c'est pas la première, c'est la deuxième, hein, donc qu'est-ce que ça change?
Bah, j'imagine que certains pourraient se dégoûter assez vite ou pourraient ne pas vouloir revenir.
Et d'autres, ils se dégoûteraient moins vite.
Ouais, bah, je sais pas, je te demande hein, par rapport à toi ce que t'en penses.
Si quand tu te prends un coup, tu es dégoûté, que ce soit au premier cours ou au dixième cours, ça va rien changer. Si le mec il prend un coup, il vient dans une salle de boxe, il prend un coup de poing, il est dégoûté, je pense que c'est peut-être pas son sport.
Non, mais par exemple, tu vois,
Et
j'ai.
ça
Bon.
en est rendu compte dès la première fois.
Oui, c'est sûr, au moins tu sais à quoi tu dois
Que
t'attendre.
ça soit arrivé au bout du dixième cours, eh ben, il serait dégoûté. Et encore plus dégoûté, parce qu'il dit, là, ça fait 10 cours que je fais et je me suis pris un coup, quoi.
Bon, c'est une façon de voir le truc, quoi.
Bah, il y a un moment où tu prends un coup de poing quand même, je veux dire, c'est de la boxe, quoi. Tu pars du principe que tu vas prendre des coups, t'as une salle de boxe, on t'enseigne à frapper, on t'enseigne aussi à encaisser, quoi. Après, si le mec va trop fort, libre à toi de dire stop, de dire oui, je pense que tu vas trop fort, je préfère arrêter le lenching, hein, le sparring, parce que tu retiens pas tes coups, faut savoir s'exprimer aussi, quoi.
Ok.
Et si tu dis rien et que tu renvoies les coups, parce que par fierté, bah, le mec il t'en renvoie encore plus.
Ouais, puis ça s'arrête jamais, quoi.
Bah, si tu prends un coup, ah, t'es nerveux, tu retapes, le mec il te retape aussi, quoi. Bah, c'est une leçon. Tu t'es défendu, oui, t'as vraiment massacré sans que tu puisses mettre un seul coup.
Non,
T'as
mais en
essayé de
fait,
te défendre.
ouais, non, mais en fait, ça s'est pas passé. Ça a pas été sur un sparring comme ça a pas été sur un échange. C'est que tu sais, c'était des multi-sparring où on tournait toutes les 5 minutes avec différentes personnes. Et moi, comme j'en avais jamais fait, j'avais aucune technique. Je savais pas comment bloquer nécessairement. Je savais pas comment on se défendait, le clinch, tout ça. Alors,
Oui, mais ça, regarde ce que tu viens de dire. Je savais pas comment bloquer, je savais pas comment se défendre. Ça, c'est suite à ta réflexion, suite à ce que tu t'es pris des coups. T'aurais pas pris de coups, t'aurais pas parlé comme ça, t'aurais pas été dans la vérité. T'aurais dit, ouais, moi, je sais faire ça, je sais faire ça. Là, t'as appris ce que tu ne savais pas. Donc, t'as appris, quoi. Pour apprendre, il faut prendre. Et ensuite, tu comprends. Tu prends, ensuite, t'apprends. Mais si tu prends pas, t'apprends pas. Tu prends des coups dans les cuisses, tu rentres chez toi, tu réfléchis, tu dis, là, faut que j'apprenne à bloquer. Tu prends pas de coups dans les cuisses, tu rentres chez toi, tu regardes un film, tu fais la fête, tu penses à autre chose. Là, le lendemain, tu reviens avec cette idée de bloquer. Tu dis, là, hier soir, j'ai eu mal, aujourd'hui, je vais faire gaffe.
Donc, pour toi, c'est la bonne
Et voilà.
école, quoi. Vraiment passer par les coups, t'es obligé, quoi. Le plus vite possible, c'est ça que je veux dire, le plus vite possible.
Après, généralement, j'imagine comment ça se passe. Quand un débutant, il tourne avec quelqu'un, le mec en face qui a un meilleur niveau, il va doucement avec lui jusqu'au moment où il se prend un coup un peu plus fort. Et là, après, il lui explique, il lui montre, quoi. Il lui montre qu'il fallait faire gaffe, quoi. Mais si quand on est avec un débutant et que le débutant, il va doucement, tu mets un coup un peu plus fort, il comprend, il va doucement. Mais si tu mets un coup un peu fort, il te regarde avec un air de bagarre et qui commence à lâcher un peu ses coups. Bon, après, tu lui montres que voilà, le Muay Thai, c'est pas ça, quoi. Mais un débutant qui va doucement, je vois mal comment il peut se faire frapper par quelqu'un d'autre. Si le mec il tient tête et qui rend les coups et qui se retient pas, bah, l'autre il va appuyer un petit peu pour lui montrer. Mais si le mec il est cool, gentil, souriant, qui va doucement, même s'il prend un coup un peu fort, il dit gentiment excuse-moi, ça va un peu fort pour moi. Tu sais, moi je suis ici en loisir, je suis pas là pour la compétition. Si tu vas fort, moi je préfère tourner avec quelqu'un d'autre. Mais qu'en face, il dit ok, excuse-moi, je vais doucement. Mais si t'es là, tu prends un coup, tu le regardes, ouais, prends ça, bim, prends ça. Le mec est d'accord. Et après il te frappe. C'est souvent comme ça que les débutants qui sont un peu dégoûtés, ils se rendent pas compte qu'en fait vu qu'ils ont pas de maîtrise de leur coup, ils vont un petit peu fort sans s'en rendre compte. Et le mec en face, il leur montre. Et après les autres sont dégoûtés. Ouais, je me suis fait taper fort, oui, mais toi aussi t'as tapé fort.
Je vois très bien le circuit. Comment ça se passe. Ouais. Et tu vois par exemple, j'ai un pote, il a quand même sur l'assistant prof parce que qui avait fait des compètes, il a quand même pété, il a quand même fait une cote sur un balayage où. Premier ou deuxième cours, je me suis demandé, est-ce que ces mecs qui veulent pas.
Tu glisses dans l'escalier, tu te pètes un genou, hein. C'est ton genre pas de chance. Hein. Il y a aussi une question de chance. Aussi, entraînement, n'importe qui peut se rouler une cheville, se luxer une rotule ou un truc, ou s'il y a une petite fragilité au niveau de l'épaule, il peut se luxer l'épaule s'il savait pas qu'il avait une fragilité avant. Dans une chute, tout peut se passer. Hein. Et ça, après, c'est des coups de pas de chance, quoi. Si ça lui arrive à l'entraînement, c'est son premier entraînement, ça lui serait peut-être arrivé en descendant de chez lui, en glissant, quoi. C'était pas son jour, quoi. Ça arrive, hein. Ça arrive, c'est un sport où on apprend à frapper, où on apprend à faire mal. C'est normal que nous-mêmes, on se fasse mal et qu'on ait des douleurs.
Et tu te souviens, toi, la première fois où t'as pris un vrai coup qui t'a marqué en Muay Thai?
Non, je me souviens pas spécialement. Je me souviens de quelques coups.
Ouais.
Grand coup de poing dans le nez. Là, il m'a fait super mal à l'entraînement. J'étais jeune, quoi. Grand coup de poing dans le nez. Je me souviens plus trop des coups de l'entraînement, quoi. Ouais, quelques-uns, hein, un petit coup de pied, évidemment. Maintenant, en réfléchissant, oui, j'ai pris quelques coups forts. Quand j'avais 17, 18, et des mecs en faisaient depuis 10 ans. Et forcément, j'avais appuyé un peu, ils m'ont rendu des coups. Quoi.
Est-ce que tu as senti que tu étais talentueux, que tu avais un truc assez rapidement ou pas nécessairement?
Non, pas du tout, mais je ne pense pas être talentueux. Hein. C'est grâce au travail, l'entraînement tous les jours. Être sérieux, comme ça, pendant des années, sans s'arrêter. C'est grâce à ça que j'ai atteint ce niveau. Je n'estime pas quelqu'un de talentueux. Quoi. Après, maintenant, avec le recul, c'est vrai que je regardais beaucoup de films de Kung Fu. Les films de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. J'essayais d'imiter un peu ce que je voyais dans les films. J'étais assez souple. Hein. J'avais déjà deux points positifs hein, quand j'ai commencé. Contrairement à des gens qui sont très raides, qui ont du mal à lever la jambe.
Ouais.
Et qui n'étaient pas des fans d'arts martiaux, du film d'arts martiaux.
T'as commencé par quoi par quelle différence en sport de combat avant de te mettre au
moins? J'ai fait du karaté à 11 ans.
Ouais.
Après, j'ai fait de l'aïkido, du kung-fu. Et un petit peu de judo à l'école. Bon, c'était pas sérieux, j'ai fait 2-3 cours. Un peu de boxe française aussi à l'école. Mais pareil, c'était pas sérieux, j'ai fait quelques cours aussi. Et après, je suis passé au Muay Thai à 15 ans.
D'accord. Et là, tu t'es dit, ça, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire
Pas tout de suite, non. Pas tout de suite, non. J'en ai fait 3 mois. Après, j'ai arrêté. Et je suis revenu un an après, quand j'avais 16 ans. Et là, j'ai démarré vraiment sérieusement. On m'a proposé un combat. Et à partir de ce premier combat, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. C'était comme une drogue. Il n'y avait que le combat qui m'intéressait, que le Muay Thai.
C'était quoi qui te passionnait dans le combat? C'était de vouloir battre tes adversaires, montrer que t'es le meilleur? C'était
surtout que j'avais gagné le combat, quoi. Et une fois que je gagnais quelque chose, j'étais bien content.
Ok. Et tu me disais tout à l'heure que t'as beaucoup parlé de technique, que t'expliques plein de trucs, tout ça, mais il y a des choses que t'as beaucoup moins parlé, c'est le côté un peu le côté santé, nutrition. Mais tu savais deux, trois choses là-dedans. De quoi tu as envie de parler là, spontanément, des choses que de tes compétences?
Pour la nutrition, là, je pourrais avoir des bons conseils à donner. Parce que après avoir testé beaucoup de régimes différents, hein, c'est-à-dire des régimes par exemple où on prenait pas du tout de glucides, bon ça c'est vrai que ça marche les 3-4 premiers jours, mais en tant que sportif on a besoin de glucides, donc ça marche pas. Les régimes où on saute des repas non plus, c'est pas bon. Les régimes où on doit peser ce qu'on mange sans plus non plus. Parce qu'il y a toujours après ces sensations de privation, ce qui fait qu'au bout de 3-4 jours, bah, on pète un plomb et puis on se gave de chocolat ou de n'importe quoi parce que le corps ne tient plus. Parce que psychologiquement, le repas, ça doit être un plaisir et puis c'est un grand plaisir de la journée. Donc, il faut manger les choses à l'heure où il le faut. En fait, c'est parmi le dernier régime que j'essayais et qui fonctionnait bien. Je me souviens plus très bien du nom de ce régime. En fait, on a le droit de manger tout ce qu'on veut, mais à une heure précise. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette sensation de faim et de privation qui te mine le moral et qui te fait, en fait, faire des écarts pas possibles après parce qu'au bout d'un moment, on a faim, on a envie de chocolat, on a envie de fruits, on a envie de gâteaux, de sucré, quoi. Et un soir, on pète un plomb et on se rassasie. Alors, donc, ce régime-là, on peut manger un gâteau, glace, fruits, ce qu'on veut, mais à une certaine heure de la journée et pas à une autre heure. Parce que le corps assimile les éléments d'une meilleure manière à une certaine heure précise. Et ça va aussi avec le fait de se lever tôt et de se coucher tôt. C'est-à-dire que dans ce régime dont je vous parle, il faut être au lit à 22 heures. Si vous passez les 22 heures, le corps va stocker en graisse les aliments que vous allez manger.
Tu vas faire bondir beaucoup de monde là. Tu peux m'expliquer, me dire si t'as pas le nom du.
Ça s'appelle la chronobiologie, de ce que je me souviens. Je sais plus c'est quoi le nom du régime, c'est le régime du docteur à quelque chose. J'ai un trou de mémoire. Mais en fait, il faut le matin manger du gras animal, c'est-à-dire tel que du beurre, du fromage. Et le midi, manger plutôt un petit peu oublié, hein, mais plutôt du riz avec de la viande blanche. Le soir, manger assez léger. L'après-midi, on peut manger des noix, des trucs comme ça, des pistaches. Et le soir, on peut manger de fruits autant qu'on veut, quoi. Moi, je me souviens plus très bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait cette méthode. Mais en tout cas, avec cette méthode de manger ce qu'on veut, mais à une heure précise, et ce qui fait que si on donne au corps ce dont il a besoin à l'heure où il le faut, et ben il ne réclame pas par la suite. Et on n'a pas ces sensations de fringale, on n'a pas ces sensations de manque, parce qu'on peut manger ce qu'on veut, mais au moins il le faut. Et on peut même, en plus, faire des petits écarts, manger des cochonneries, un McDo, des bonbons, mais une ou deux fois par semaine, à un moment précis. Et voilà. Et puis aussi beaucoup boire, carrément presque 2-3 litres par jour, hein, de l'eau, des grosses tisanes avant de se coucher, des gros thés le matin. Hein, le fait de bien fluidifier le corps, boire beaucoup, ça permet d'éliminer. Après cette perte de poids, elle vous fatigue pas parce qu'en fait on mange ce qu'on veut, on a ses nutriments et on perd du poids parce que le corps ne stocke pas parce qu'on lui donne ce qu'il lui faut au moment où il le faut, donc il ne stoppe pas pour plus tard. Et après, 2-3 jours avant, je vais garder la perte de poids en eau, perte hydrique. C'est-à-dire que quand vous vous entraînez tous les jours avec un kawaii, la première fois que vous mettez le kawaii, vous perdez 3 litres d'eau le premier jour. Si vous le mettez tous les jours, au bout d'un mois, bah, vous ne perdez pas 3 litres d'eau pendant l'entraînement, vous perdez quelques centaines de grammes. C'est pour ça que moi, le kawaii, je le mets 2 jours avant le combat. Comme c'est la première fois que je le mets, que je ne l'ai pas mis depuis longtemps, bah, mon corps il va perdre 3 litres parce que c'est la première fois que je le mets. Quand on met la truc pour la première fois, le corps il est vraiment pris au piège et il transpire. Mais après, quand on force le corps, le corps il est intelligent. Si vous mettez après le kawaii, vous lui mettez, bah, il va moins transpirer parce qu'il a déjà vécu ça. Et, quand c'est la première fois, le corps réagit beaucoup plus violemment. Donc pour les 2 derniers jours, je gardais entre 8% et 10% du poids à perdre en eau. C'est-à-dire, sur un combat de 64 kilos, 10%, ce sera environ 6 kilos. Donc, ce combat était en 63, attends, 60, 70, 10%, ça fait 7 kilos. Donc, on va dire que 2-3 jours avant le combat, il va me rester 5-6 litres. Mais comme je ne me suis pas du tout entraîné avec le K-Way, je suis pas du tout en perte d'eau. Je suis encore gonflé, quoi. Et quand je mets le K-Way 2 jours avant le combat, d'un coup, vu que c'est la première fois, je perds 3 litres d'un coup, quoi. Et après, bon, comme c'est des pertes de poids vraiment drastiques, le dernier jour, je pense qu'on mange pas beaucoup. On mange pas beaucoup, mais on mange quand même pour avoir la force d'aller courir le lendemain, quand même. Faut quand même manger, quoi. Comme me disait un thaï, il me dit, vaut mieux que tu manges 1 kilo et ça va te donner la force le lendemain de perdre 2 kilos. Que si tu manges pas, tu pourras même pas perdre 300 grammes parce que t'as pas de force. Donc,
Ok.
oui, non, continue à manger, mais bon, après, quand il y a des grosses, grosses pertes de poids, les gens doivent perdre 10 kilos, effectivement, je crois que un jour avant la pesée, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de boire.
Ok, toi, tu as toujours réussi à atteindre le
C'est fou,
poids.
ça aussi. Hein. Et je descendais à 63,5 kg de mes 18 ans jusqu'à la fin de ma carrière à 31 ans. J'ai accepté quelques combats en 67 et 70 kilos, où j'ai débat mon avantage, où les mecs étaient quand même un peu plus costauds que moi. Et bon, ça se passait forcément moins bien en 70 kilos qu'en 63 kilos. Mais quand j'arrivais à descendre à 63,5, j'avais quand même un avantage physique sur mes adversaires que je n'avais pas quand je faisais des combats en 67 ou en 70.
En Thaïlande, par rapport à la France, c'est quoi les grosses différences entre l'apprentissage du Muay ou la façon de pratiquer? Est-ce que c'est plus technique là-bas, moins technique, plus violent, moins violent?
Ben, c'est-à-dire qu'en Thaïlande, déjà, les jeunes connaissent le Muay Thai. Ils font juste du physique. C'est que du physique parce qu'ils connaissent déjà le Muay, parce qu'ils sont baignés dedans. Il y en a tous les jours à la télé, toute la journée. N'importe qui sait faire un coup de pied, n'importe qui sait faire un coup de coude. Bon, les coups de poing, c'est quand même plus en France, on a quand même plus d'expérience en anglaise. Mais tout ce qui est coup de pied, coup de genou, coup de coude, les Thaïs excellent dedans parce qu'ils sont clairement baignés dedans, quoi. Ça même dès les enfants ils s'apprennent en regardant. Alors qu'on avait plein d'enfants de 6 ans dans un camp qui regardent les champions s'entraîner depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils deviennent bons direct. Ils ont l'exemple devant leurs yeux des anciens champions qui s'entraînent. Il n'y a pas de après l'entraîneur qui va devenir les PAO, c'est surtout au moment du PAO que l'entraîneur peut donner quelques conseils, mais ça va être des petits conseils rapides. Hein, c'est pas des leçons, quoi. C'est beaucoup de physique, beaucoup beaucoup de physique. Des footings, des séries de coups de pied au PAO, du sac, du corps à corps, de la muscu, des abdos, des tractions. C'est énormément de physique. Parce que la technique, ils l'ont déjà. Et comme ils sont baignés dedans depuis qu'ils sont petits et qu'ils regardent des combats tous les jours. Qui regardent des champions. À 6 ans, ils en magasinent. Un enfant en magasine beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Et ce qui fait qu'à 10 ans, c'est déjà des petits champions et ils ont déjà des niveaux mondiaux, quoi.
C'est-à-dire qu'au final, s'ils travaillent plus le physique, ils sont plus endurants, ils sont plus résistants.
Ils ont déjà la technique, donc ils
Ouais.
travaillent le physique. Mais bon, la technique, ils le travaillent quand ils font les petits lunges, hein, sparring en anglais, ou le PAM, le corps à corps. Comme on dit en français. Donc ça, ils le font à l'entraînement. Et puis, surtout en regardant, c'est en regardant qu'on apprend. Quand vous avez deux, trois anciens champions qui s'entraînent dans la salle, ou même pas des anciens, des champions qui s'entraînent quand on est petit et qu'on les voit s'entraîner, ben, on les imite. Et c'est comme ça qu'ils progressent, c'est comme ça qu'ils connaissent le Muay Thai.
Et quand t'es arrivé là-bas, toi, pour la première fois que t'as combattu contre des Thaïs, t'as senti une différence justement dans le fait qu'ils étaient résistants, ils étaient durs, ils étaient endurants, performants physiquement. T'as senti un gap?
Non, pas les premières fois, parce que les premières fois, je pensais pas des Thaïs qui avaient des super niveaux. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Moi, j'étais plus motivé qu'eux, ça c'est sûr, parce que les premiers combats que j'ai faits, c'est dans des bars. Dans des bars, c'est des anciens champions, des anciens boxeurs, enfin, peut-être pas même champions, mais bon, des anciens boxeurs, qui font des combats, pour les étrangers dans les bars, mais c'est des faux combats. Ils font pas, entre eux, ils font des faux combats, c'est pour le spectacle. Mais si un étranger qui veut faire un combat contre eux, là ils font un vrai combat. Là ils tapent pour de vrai. Après ils sont pas là pour prendre des risques, hein, parce qu'ils sont sont payés juste pour faire un spectacle, mais comme ils ont quand même la fierté, ils vont quand même essayer de gagner, mais s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à gagner et que ce combat devient trop dur, la plupart ont abandonné. C'était pas des champions d'activité, c'était des anciens boxeurs qui boxaient dans les bars pour et donc ça m'a permis de me faire une grosse expérience de combat. J'ai fait 16 combats dans ces bars-là, ouais, pour 15 victoires, un match nul et presque autant de KO. Donc ça m'a permis d'avoir une bonne expérience hein, du ring, de monter sur le ring avec des combattants pas trop difficiles forcément vu que je démarrais. Et ça m'a donné une bonne expérience qui fait qu'après quand j'ai boxé dans les stadiums, bah, j'avais déjà l'expérience quoi, et ça m'a beaucoup apporté.
Tu mets combien de temps à gagner le respect de eux finalement? Est-ce que tu sais, t'arrives, t'es le blanc qui bat les tailles, est-ce que tu sens une animosité directement, tu sens que ça leur plaît pas, ou au contraire très rapidement ils te portent un respect?
Le respect, à partir du moment où on monte la première fois sur le ring, là on a gagné le respect, parce que monter sur le ring c'est difficile et tous les ceux qui le font méritent le respect, et à partir du moment où on monte une seule fois sur le ring, on gagne le respect. En revanche, pour gagner l'amitié, il m'a fallu 4 ans.
4 ans.
Ouais, 4 ans, quand je me suis installé à 25 ans, c'est à 29 ans que j'ai commencé à sentir que j'avais des amis.
Ok, mais est-ce que c'était lié à ta performance en combat ou pas du tout? C'est que plus tu gagnais, plus tu sentais que c'était...
Non, pas spécial, non, pas du tout, non, non. Non, l'amitié, ça n'a rien à voir avec le respect, c'est la performance en combat, ça je l'avais déjà, parce que j'étais déjà champion quand je me suis installé à 25 ans en Thaïlande au jeu Kijim, et j'avais jamais battu leur champion, Robot Ken Racing, et... Le respect, je l'avais déjà, mais l'amitié, c'est autre chose. L'amitié, il faut du temps, il faut connaître les gens, et ils t'observent, ils voient comment tu te comportes. Et puis, moi, je suis pas non plus quelqu'un qui m'ouvre facilement, donc, mais j'ai l'impression que la quatrième année, il y a un truc qui s'est déclenché. Un des entraîneurs m'a dit, à partir de maintenant, je vais t'aider parce que je t'ai observé, et maintenant, j'ai vu que tu aimes le mouet. Et, comme lui, il aimait ça aussi, forcément, vu que c'est un entraîneur, c'est ça qui a forcé l'amitié. Là.
D'accord.
Parce que venir s'entraîner 3 mois, 6 mois, 1 an, après repartir faire autre chose, c'est pas aimer le mouet. Aimer le mouet, c'est faire ça tous les jours, malgré les blessures, malgré les défaites, revenir de défaite à chaque fois, et se donner à fond. Malgré les blessures, on s'entraîne, et là, l'État, il voit bien qu'on aime le mouet. Quand tu t'entraînes blessé, c'est que t'aimes le mouet.
Tu recommandes de s'entraîner blessé quand même ou pas dans l'absolu?
Bien sûr, bien sûr.
Ouais. Mais alors quel type de blessure? Parce que si tu te pètes la jambe.
On est tout le temps blessé. Donc comme on est tout le temps blessé, si on s'entraîne pas quand on est blessé, on s'entraîne jamais.
Ouais, mais quelle blessure? À partir de quand il faut s'arrêter? Il faut faire une pause dans ce cas-là.
Si t'as mal au bras droit, tu travailles le bras gauche. Si t'as mal aux deux bras, tu travailles les jambes. Si t'as mal aux jambes, tu fais les abdos. Si t'as mal partout, tu fais du lendome, du shadow devant le miroir.
D'accord, ouais, donc il y a toujours moyen.
La blessure la plus chante, c'est quand t'es coupé sous pied. Quand t'es coupé sous pied, vu que tu peux pas marcher, bah, tu peux rien faire. Bah, tu peux quand même faire des abdos, de l'assouplissement, des tractions, de la muscu. Mais quand t'es blessé sous pied, bon, faut mettre des chaussures, tu peux faire l'anglais. Après, oui, si tu marches en béquille, t'as pas vraiment le choix là. Mais les autres petites blessures, il y a toujours un moyen de s'entraîner, il y a toujours un moyen de faire quelque chose. T'as la main gauche dans le plâtre, tu vas avec une écharpe, tu tapes de la main droite, tu fais des coups de pied, tu fais quelque chose.
Ouais.
Et toujours un truc à faire.
Quand t'étais blessé sur une partie, qu'est-ce que tu faisais pour récupérer, ou même si ça t'arrive encore aujourd'hui, alors tu continues à t'entraîner sur les autres endroits, mais...
J'allais voir des docteurs, des pharmaciens, des kinés, des ostéopathes, des acupuncteurs, des magnétiseurs, des masseurs.
Ouais, tout ce que tu peux, quoi.
Des gourous.
Ah ouais, qu'est-ce qui t'a sauvé quel est le truc le plus original qui t'a sauvé d'une blessure?
Qui m'a sauvé?
Ouais.
Non, mais des blessures, j'en ai eu quelques-unes.
Je veux dire, tu me parles de gourou, de magnétiseur. Est-ce que, je sais pas, t'as été voir un gourou qui, à un moment donné, t'a réglé un problème
En Thaïlande, j'ai été tatoué dans le dos par un grand maître maraboutaï, et c'est une sorte de gourou. Il fait des tatouages, il fait rentrer l'esprit dans le tatouage, c'est un esprit protecteur, avec une petite cérémonie religieuse là-bas en Thaïlande. Et c'est des trucs qu'ils prennent très au sérieux, avec avec des croyances en fait qui viennent d'Inde à la base.
Et alors ça a marché.
Ouais, ça a marché. Ça a marché.
Est-ce que tu avais la haine quand tu faisais les combats? Est-ce que tu faisais partie de ces combattants qui avaient la haine contre l'adversaire ou pas?
Quand je monte sur le ring, j'essaie de me motiver comme quoi je vais gagner, je vais le frapper quoi. C'est avant de monter sur le ring, je me fais un petit speech mental pour dire ouais, il faut que tu battes. Le mec c'est personne. Dans ta tête, il faut que tu partes gagnant quoi. C'est toute une raison quoi. Si tu pars perdant, si tu pars en hésitant, c'est mort. Il faut être à fond pour soi, être motivé et ne pas hésiter à se le dire à haute voix, à se le répéter quoi. Je vais gagner le combat, le mec il mérite pas d'être devant moi, je vais mettre KO. Tu dis ça dans ta tête quoi.
Un truc qu'on voit beaucoup en MMA, c'est les mecs qui se foutent sur la gueule un petit peu avant de démarrer les combats. Tu vois, alors on sait qu'il y a du spectacle, mais tu sais, quand on passe à McGregor, quand on passe à ses adversaires, t'as vraiment l'impression que les mecs ils se détestent profondément. Si on enlève le côté spectacle, est-ce que tu penses que certains ont besoin de détester l'adversaire pour les combattre, pour arriver à ce... Est-ce que c'est juste de l'autosuggestion ou est-ce qu'il y a une vraie haine? Se dégager.
Non, bah, y a, entre tous les combattants, moi je crois qu'un énorme respect. Après, c'est du show. L'important, c'est le combat. Tout ce qu'on se dit avant, c'est pour le show, c'est pour la pub. Et apparemment, ça marche bien le trash talking. Donc, il y en a qui se permettent de faire ça. Mais sinon, entre tous les combattants, il y a un grand respect. Regardez, même ceux qui s'insultent avant, à la fin du combat, ils se prennent dans les bras, ils se font la bise. Et puis au final, la plupart du temps, ils font des conférences de presse ensemble, ils voyagent ensemble. C'est des amis. Et ça s'insulte devant les gens pour faire du show, quoi. Il y en a comme ça.
Et le MMA, toi, ça te botte pas? Ça t'a pas botté à la fin de ta carrière?
Bon, moi, je suis professeur de MMA, je vais pas faire prof de MMA, je connais pas le MMA.
Ouais, mais quand t'as terminé, c'est à quelle année t'as fini ta carrière, officiellement?
En 2006.
2006. Il y avait déjà le MMA qui était bien là. On t'a proposé de te lancer dedans, de faire un peu de lutte ou pas? Ou ça t'a pas du tout intéressé?
Non, du tout, non.
Ok.
Bah, j'étais déjà champion de Muay Thai, ça m'intéresse pas de...
J'aimais ouais, regarde...
Muay Thai, et puis j'aimais pas trop le judo. Et pour moi, au sol, c'est de la lutte, et j'aimais pas trop la lutte. Moi, je préfère faire un combat debout.
Okay. Non mais tu te dis ça parce que regarde Cyril Diabaté par exemple qui a commencé par le Muay Thai.
Oui non mais là on parle d'argent. Mais qui leur propose des sommes 10 fois plus grosses que s'ils gagnaient dans leur vie d'avant de champion de kick ou de Muay Thai. Ça n'a rien à voir. Mais après c'est pas mon sport. Moi je suis pas trop lutte au sol. Moi j'aime le Muay Thai. Je préfère le combat debout et tous ceux qui sont des fans de l'UFC, quand il y a des highlights, c'est uniquement des parties debout. Quand les boxeurs sont au sol, les spectateurs ils discutent, ils parlent d'autre chose. Ils regardent pas trop, c'est un peu ennuyeux quoi. C'est les highlights debout, les KO qu'il y a debout qui font des millions de vues. Quoi. Quand on regarde des extraits de combat, c'est toujours des extraits où ils sont debout, des extraits où ils sont allongés, et il se passe rien, ça va très vite quoi.
Ouais, ou les soumissions aussi. Soumission, ça c'est impressionnant.
Ouais, mais la soumission, ça dure, c'est 22 secondes, quoi. Si ils sont en train de lutter pendant 3 minutes au sol, ils vont juste mettre la soumission. Ils vont pas mettre 3 minutes de sol. Personne va regarder 3 minutes de sol. Non.
Ouais, bah...
3 minutes de sol. Les spectateurs, ils décrochent au bout d'un
moment. Ouais, c'est sûr.
Ce qu'ils c'est des combats debout, c'est des coups de poing, quoi.
Oui, c'est ce qui est le plus impressionnant, les KO.
Oui.
D'accord, ouais.
Les coups de pied, les coups de pied dans la tête, les coups de poing, les coups de pied retournés, les trucs comme ça. Si tu mets un petit extrait de ça, t'as des millions de vues, quoi. Après, la lutte au sol. Moi, je suis parti voir des combats de MMA à Montréal. Et quand je suis entré dans la salle, tout le monde était en train de parler. Parce que les gens étaient au sol. Et on les voyait pas trop, forcément. Quand on est assis, on voit pas très bien ce qui se passe au sol. Et tout le monde discutait. Il y avait une espèce de gros brouhaha dans la salle. Comment ils se sont levés, les gens ont arrêté de parler. Ils ont commencé à rentrer dans le combat. Et après, dès qu'ils sont tombés au sol, tout le monde discutait entre eux. Personne ne regardait. Bon, en tout cas, le MMA a besoin du Muay Thai. Le Muay Thai peut survivre sans le MMA.
Ouais.
Okay. Pas le MMA. Mais ils ont toujours besoin de savoir se battre debout. Et pour savoir se battre debout, bah, ça va forcément aller vers le Muay Thai. Parce qu'il y a des saisies, il y a des coups de coude, il y a un petit peu tout. Quoi.
Et c'était quoi tes points forts ou toujours, hein, tes points forts ou tes points faibles?
C'est plus l'anglaise. L'anglaise.
Bon,
là, j'avais le punch dans les deux mains. Ce qui fait que j'ai pu gagner pas mal de combats par KO. Et courter le combat.
Ouais. Ouais.
Et c'était. Ma technique est un petit peu basée sur le fait d'arriver à mettre un coup de poing au troisième ou quatrième round pour mettre l'adversaire KO.
Et le clinch aussi, non? À chaque fois que je te vois un peu sur des sparring que tu fais sur des.
Ouais, j'aime pas. Vu que moi, ce que je voulais, c'était faire du. Mettre mon anglaise, faire du PAM, du clinch, c'était pas mon intérêt. Non. Par contre, mon intérêt, c'est savoir me défendre sans trop me fatiguer si l'adversaire m'attrapait en clinch ou en PAM. PAM, c'est clinch en thaï. Donc, si l'adversaire m'attrape en PAM, il faut bien que je sois capable de me défendre sans perdre trop de plumes. Donc, je suis obligé de faire du PAM. Mais le but de mon PAM, c'était de mettre un ou deux coups de genou et puis après de pousser le mec et après de pouvoir enchaîner en pied-pente. Parce que c'était surtout là où j'avais mon fort. Quoi. Je n'avais pas vraiment d'intérêt à faire du PAM. Quoi.
Ok, je me pose une question. Est-ce que t'as senti au fur et à mesure une désensibilisation de tes capteurs neuronaux, j'en sais rien, au niveau des cuisses, au niveau des tibias? Est-ce que c'est un truc que tu travailles spécifiquement? On pense non, mais tous les novices, ils
ont la référence. Tu t'en rends pas compte, c'est tellement progressif que tu t'en rends pas compte.
Tu t'en rends pas compte. Tu fais pas un travail spécifiquement comme Jean-Claude Van Damme quand il frappe sur les bambous pour se désensibiliser le tibia.
Mais c'est pas du bambou, c'est un bananier.
Tant pour moi.
Ouais, parce que le bambou, c'est très dur, on peut faire des échafaudages avec. Alors que le bananier, c'est juste une superposition de feuilles. C'est que les feuilles, le bananier, il n'y a pas de tronc. C'est des feuilles les unes sur les autres. Donc c'est mou. C'est mou, c'est rempli d'eau. C'est pas comme le bambou. Le bambou, c'est pas possible. C'est trop dur.
Et t'as récupéré une sensibilité depuis que tu fais moins de combats ou c'est perdu à vie ça?
Mais j'ai jamais été insensible.
Non, mais tu me dis au fur et à mesure, tu t'en rends pas forcément compte, tu perds un peu plus en sensibilité à force des coups. Ça, t'es d'accord avec ça ou pas? Ou tu sens toujours, c'est toujours aussi sensible?
Oui, forcément, enfin, en fait, c'est surtout que t'arrêtes de te plaindre.
Mais parce que tu sens moins ou parce que tu prends l'habitude?
Parce que ça intéresse plus personne d'écouter tes jérémiades sur le fait que t'as mal au tibia. Quand ça fait 30 ans que tu fais des coups de tibia à tout le monde, quoi.
Mais à titre personnel, est-ce que ça fait de moins en moins mal ou pas? Sans te plaindre, sans forcément le dire.
Bah, tu veux que je me plaigne.
Mais non, c'est pas se plaindre. Je te demande pas de te plaindre, juste de me dire si ça te fait moins mal ou pas. Après, tu peux me dire non, j'ai jamais eu mal.
Oui, mais quand tu me dis ça, tu me parles de quoi? Tu me parles d'un grand coup de batte de baseball dans le tibia. Genre, je vais pas avoir mal.
Non, quand tu fais des sparring ou quand tu as fait des combats.
Si j'avais mis un grand coup de tibia, batte de baseball dans le tibia, je vais pleurer. Il hein. n'y a pas de motel. Le mec qui pète le tibia, j'ai un accident de bécane, je me pète le tibia, je pleure. J'imagine que je vais avoir super mal. Quoi. Et là, je vais plaindre parce que c'est nouveau. Okay. Une bosse sur le tibia, ça me fait mal, évidemment. Surtout si j'ai une bosse et que le mec, le lendemain, il me retape dans la bosse du tibia, je vais encore souffrir. Si j'ai une bosse de la veille et que le mec, il me retape dans la bosse, là, c'est horrible. Quoi. Après, j'ai pas pleuré, je vais pas me rouler de douleur au sol. Je vais mettre de la glace et puis je pense à moi.
Ok. Bon. Tu te souviens si t'as déjà pris un KO, ton pire souvenir de coup que t'es pris?
Oui, j'ai pris... Deux KO où j'étais allongé pendant une minute, inconscient.
Ouais.
Le premier contre Mustapha Mekboul, un élève de Bonneuil. Pas de Bonneuil, excusez-moi. Aubervilliers, je pense. Pardon, ouais, élève d'Aubervilliers. Non, de Gennevilliers, excusez-moi. Gennevilliers, voilà. Mustapha Mekboul de Gennevilliers. Et un autre KO, c'est contre Corp Onglek à Bercy.
Ton souvenir rideau
Ben, tu te rends compte quand tu travailles, le premier KO m'a beaucoup plus touché au niveau du cerveau parce que j'avais pas mal de trop de mémoire et j'ai l'impression de réfléchir moins vite par la suite.
Ouais.
Et le deuxième, ça m'a pas fait trop de séquelles.
Et est-ce que tu te souviens la séquence, les secondes qui ont précédé le KO, lorsque tu te réveilles après, ou alors tu as un espèce de trou, il faut que tu regardes le combat s'il a été filmé pour te rappeler
Non,
de
non,
comment ça s'est passé?
fallait que je regarde le combat.
Ok, donc il y a une amnésie qui. Tu sais pas d'où il est arrivé, quoi. T'as pas le souvenir du moment où tu le vois arriver.
Non, j'ai pas vu les coups arriver. Je me souviens plus de rien. Je me souviens même plus d'où j'étais.
Il y avait ça que je voulais te demander aussi. Si par rapport à toute ta carrière, tous les combats que tu as fait, est-ce qu'aujourd'hui tu gardes des traces physiques? Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as plus de douleur que quelqu'un qui n'aurait pas fait? Est-ce que tu as juste encaissé? Est-ce que tu es comme un peu un rugbyman qui, après carrière, tu as des douleurs qui se réveillent
Non,
parfois?
ça va, j'ai rien. J'ai une douleur au genou due à une opération du ligament que j'ai eue il y a 7-8 ans, mais j'avais déjà arrêté ma carrière.
Ouais.
Voilà. Donc si je force trop, peut-être mon genou va un petit peu enflé. Dû à cette opération du ligamentoplastique, j'ai fait il y a 10 ans maintenant, disons.
C'était suite à une entorse?
C'est suite à une rupture du ligament, quoi.
Oui, d'accord. Une entorse, mais je veux dire, c'est dans le cadre d'un combat ou rien à voir?
Je pense que c'était dans le cadre de combat. Parce que j'en suis rendu compte plus tard, quoi. Sans réfléchissant, je pense que c'est la suite d'un combat.
Est-ce que tu prends des compléments aujourd'hui ou tu as pris des compléments? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont aidé dans ta carrière spécifiquement?
Des vitamines, des trucs simples, quoi.
Ok. Pas quelque chose en particulier.
Non, des trucs multivitamines, magnésium, calcium, quoi d'autre, spiruline, en Thaïlande, mais la spiruline,
Ouais.
c'est des vitamines. Voilà. Un jour, c'est l'L-carnitine, là, m'a fatigué plus qu'autre chose. Tu connais l'L-carnitine? C'est pour brûler les graisses, soi-disant.
Ouais, je connais de loin, on va dire.
Bon, en tout cas, ça marchait pas.
Non.
Ouais, mais si j'essaie de m'enseigner, de manger des bons trucs, d'avoir une nutrition saine et de prendre des compléments alimentaires.
Est-ce que depuis que tu as arrêté ta carrière, il y a eu le Muay Thai, il a évolué dans sa façon d'être pratiqué. Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a une évolution du sport de combat ou pas tant que ça finalement?
Bah ouais, c'est de plus en plus populaire, hein. Et puis là, maintenant, avec des organisations telles que le ONE, ça commence à prendre un essor mondial, de plus en plus connu dans le monde entier. Oui, les boxeurs gagnent plus d'argent qu'avant. Donc ça, je suis vraiment content. C'est un sport qui est de plus en plus connu. Regarde, pendant le Covid, il n'y avait aucun sport à la télé sauf le ONE et la boxe anglaise. Donc c'est vraiment génial. Enfin, l'UFC, l'UFC et le ONE. Et la boxe anglaise, il n'y avait que les sports de combat qui étaient retransmis à la télé pendant presque un an avec le Covid. Donc, ils sont de plus en plus publicités. Apparemment, là, le Muay Thai a été reconnu comme sport olympique et sera en démonstration aux prochains Jeux olympiques à Paris. Donc, ça, c'est vraiment génial. De plus en plus de clubs, de plus en plus de pratiquants.
Ouais.
Donc, il y a un gros essor. Je suis bien content.
Ok, ça c'est sur la popularité et sur la technique ou sur la façon de le pratiquer. Est-ce que ça a changé?
C'est un art martial qui fait que progresser. Les gens sont de plus en plus techniques, forcément. Quand tu regardes les combats de boxe anglaise aujourd'hui, les combats de boxe anglaise en noir et blanc, tu te demandes ce qu'ils faisaient à l'époque, quoi, avec une garde bizarre, des placements bizarres, la tête levée. Tu dirais qu'aujourd'hui, avec des connaissances que tu as de boxe anglaise, tu reviens 50 ans avant, 100 ans avant, tu peux être champion, parce que c'est pas trop technique, donc la technique évolue. Évidemment. Après, les combats de 3 rounds avec des petits gants, c'est pas les combats de 5 rounds avec des gros gants, évidemment. Maintenant, on sent plus favoriser les poings avec des petits gants qu'à l'époque, avec des gants un peu plus gros. Il y avait surtout le travail au niveau des jambes, des genoux et des coudes. Maintenant, les Européens ont beaucoup plus de chance en boxant en 3 rounds avec des petits gants qu'à l'époque en 5 rounds avec des gants normaux.
T'as eu l'occasion. Est-ce que t'es un bagarreur ou pas du tout? À la base.
Pas du tout.
Pas du tout. T'as déjà été dans une situation où t'as dû utiliser le Muay Thai dans la vie de tous les jours sur une agression ou sur une menace?
Non, je me suis déjà défendu.
Ok. Bon, t'as pas utilisé des techniques spéciales.
Non, non, je...
Ok. Bah écoute, il est quelle heure là?
Il est moins 8. Moi, je suis à 15h à l'accueil.
Ouais.
Parce que là, je suis au club.
Bon, bah écoute, je vais pas te garder plus longtemps.
Bah, merci beaucoup en tout cas de l'invitation et de la vidéo. J'espère que on se reverra bientôt. Tiens-moi au courant.
Eh ben oui, est-ce que t'as pour projet de passer à Bali bientôt ou pas?
Non, j'ai pas de projet de venir à Bali.
Bon. Eh ben écoute, si t'as l'occasion de venir à Bali, parce que moi je suis installé à Bali et bon bref, si l'occasion se présente, ça pourrait être l'occasion
au passage, ni Bali, ni Los Angeles, ni Dubaï. Hein.
Pourquoi?
Pourquoi c'est Paris. C'est 18e, Paris 20e.
Okay. Tu retournes plus jamais en Thaïlande par rapport à ton. C'est fini, la Thaïlande?
Ça fait 5 ans que je ne suis pas retourné parce que j'ai eu un nouvel enfant et partir à 4-5 en Thaïlande, c'est moins évident. Et puis là, je suis beaucoup occupé avec mon club à Paris. J'ai le temps de retourner en Thaïlande ces dernières années. Je vais y retourner bientôt.
Ok, parfait. Bon, bah écoute, je vais pas te prendre.
Merci, Jérôme.
Je vais te laisser partir aller faire ton entraînement. Je vais faire la petite conclusion tout seul.
Bon, bah, je te souhaite une bonne journée.
Merci, passe une bonne journée à toi aussi. Je te dirai quand l'épisode
sera sorti. Merci beaucoup pour l'interview.
Merci.
Et merci à tous de m'écouter. Au revoir.
Ciao, ciao. Bon, voilà, je fais la conclusion tout seul. Je fais la conclusion tout seul en suivant. Alors, bon, voilà, j'explique un petit peu. C'est que j'ai eu l'occasion de faire cet épisode avec Jean-Charles Skarbowski, qui avait une toute petite fenêtre de temps pour réaliser ce podcast. Donc, je suis toujours pris entre deux sentiments quand j'ai des invités de ce calibre-là, qui est à tout prix vouloir que ça se passe dans les meilleures conditions, qu'ils puissent le faire à un endroit calme, qu'ils puissent avoir un bon micro, qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut et avoir beaucoup de temps devant lui. Malheureusement, ça arrive pas tout le temps et y a des invités que je souhaite recevoir sur le podcast et que je suis absolument ravi de pouvoir accueillir et qui ne peuvent que m'offrir une petite heure de temps et qui n'ont pas forcément les conditions parfaites pour enregistrer. Donc je me dis toujours, est-ce que je reporte, est-ce que je fais ce podcast, est-ce que je ne le fais pas parce que je veux absolument garder des épisodes de 2 heures qui se font dans des excellentes conditions. Et ben des fois je refuse ou des fois je délaie. Et puis des fois j'accepte. Et cette fois-ci, ben, j'ai eu l'occasion de faire un podcast avec, de faire un échange, un petit échange avec Jean-Charles Skarbowski. Donc j'ai pris l'occasion, même si toutes les conditions n'étaient pas réunies. Et vous savez que j'adore faire les épisodes longs et qu'il y a très très peu d'épisodes qui passent sous la barre des 1 heure. Mais des fois, ben, c'est les petits compromis qu'on est obligé de faire. Donc veuillez nous excuser pour des fois peut-être la qualité, les bugs ou quoi. Je pense que en post-prod, on essaiera de retoucher tout ça pour que. Alors il y aura rien qui sera coupé nécessairement, mais ce qui sera enlevé, ça sera toutes les petits problèmes techniques pour faire en sorte que l'épisode soit fluide et soit le plus agréable à écouter avec l'audio. Voilà, j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai pas eu le temps, je voulais vraiment rester dans la conversation, j'ai pas eu le temps de lui poser mes 3 questions de fin, vous savez c'est un petit peu la tradition sur le podcast, donc ça sera l'occasion de le faire peut-être plus tard. Si je repasse, si je passe en région parisienne et que j'ai l'occasion de le rencontrer, de faire un podcast en présentiel, ou si lui-même a l'occasion de passer en Indonésie, actuellement là où je suis à Bali, pour faire un podcast en présentiel également. Voilà, je vous poserai ces questions-là. La fin reste ouverte, voilà, pour peut-être un prochain épisode avec Jean-Charles. Si vous avez apprécié, laissez un petit like, un petit pouce, faites un commentaire, envoyez-lui un message à Jean-Charles aussi pour lui remercier de sa présence, même si c'était court. Il y a toujours des excellentes leçons quand il parle, quand il retransmet son expérience. Et donc c'est toujours sympa de lui envoyer un petit message pour le remercier, pour lui dire bah, merci d'être venu, d'avoir fait l'effort, d'avoir pris le temps pour partager ça sur le podcast. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qui sera certainement plus long, plus touffu, plus complet. Abonnez-vous au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes justement. Et puis voilà, hein, je pourrais parler encore pendant un petit moment pour combler le temps manquant, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie à tous qui suivaient, j'en profite, qui suivaient le podcast toutes les semaines. Je le répète beaucoup, mais vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast sur toutes les plateformes. C'est assez fou là, les la croissance qu'il y a eu sur ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc, je vous en remercie. J'espère que vous continuez à apprécier les différents invités que j'essaie d'avoir. Il y a de très bons invités qui vont arriver, d'autres qui sont déjà arrivés. On m'a envoyé un message récemment pour me dire « Ah, t'as des super invités en ce moment ». J'essaie d'être toujours, j'essaie d'être à la hauteur à chaque fois de mes invités, de poser les bonnes questions, de répondre au bon moment. C'est pas toujours facile, surtout quand c'est en distance. Il faut gérer ça, c'est un truc. J'en profite, hein, je suis en roue libre, donc je vous parle. J'en profite pour vous expliquer un peu quelques coulisses des fois. C'est pas toujours facile avec le rythme, les connexions, le rythme de la conversation. On est à travers un écran. Évidemment que si je pouvais faire tous ces épisodes en présentiel, comme ça m'est arrivé sur quelques-uns récemment, ben ça pourrait être, ça serait d'autant plus formidable. Mais c'est pas toujours facile d'avoir le bon rythme, de poser la bonne question au bon moment, d'être sûr que que l'invité a terminé sa phrase ou a terminé sa réflexion, qu'elle n'est pas en pause pour parler d'autre chose, arriver à ne pas laisser trop de blanc non plus pour laisser, voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passe. Donc j'essaie de faire au mieux, c'est pas toujours facile. Et je dis pas du tout ça pour me plaindre ou pour me justifier, mais c'est la réalité, elle est comme ça. Donc des fois je suis plus en forme que d'autres. Voilà, donc dites-moi aussi quand je suis un peu moins en forme. Voilà, avec les mots, en mettant les formes, je pense que il y a aucune raison que je le prenne mal. On est là pour progresser de toute façon. Et puis comme dit Jean-Charles, on progresse. On est là pour progresser, donc il y a pas, on se plaint pas, on s'auto-flagelle pas. On apprend, on fait mieux et puis on progresse. Je pense que je vais arrêter mon monologue maintenant. Si vous appréciez mes monologues, faites-le moi savoir. Peut-être que lorsque j'aurai des invités. Qui pourront être moins présents pour les podcasts, eh bien, je m'amuserai en fin d'épisode à parler un petit peu plus comme ça et à vous faire un bilan. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous au podcast si ça vous plaît. Continuez à laisser des notes sur Apple Podcasts, des évaluations, des étoiles sur Spotify aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Je vous remercie. Ça paraît pas grand-chose, mais ça permet vraiment de propulser, de gagner en notoriété, de remonter dans les charts et de se faire découvrir par de nouvelles personnes. Donc, c'est absolument formidable. Et puis voilà, faites pas trop les cons. Prenez soin de vous. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.